Actu SF, les podcasts.
Merci à vous d'être ici pour cette petite table ronde sur le jeu de rôle où, ici, quand et est-ce une succursale du roman ? Spoilers, ce n'est pas une succursale du roman.
On va commencer,
autour de la table, nous avons Anders qui est à nos côtés, écrivain suédois. No problem. Donc qui exerce eh bien, en Suède dans le jeu de rôle et le jeu de plateau, et qui est également écrivain. Son dernier roman, La Reine en jaune, un petit clin d'œil à Monsieur Robert Chambers, publié donc en 2017, une sélection également donc de 9 nouvelles lui a valu une nomination au prix Imaginal 2018. Nous avons Monsieur Fabien Fernandez qui fait un hommage à H.G. Wells en étant l'homme invisible, donc on l'attend. Nous avons ici Clément qui est avec à nos côtés, Clément Pellissier qui co-animera. Clément, quant à lui, est depuis 2017 docteur en littérature, ça c'est toujours impressionnant ça. Un spécialiste de recherche de l'imaginaire rattaché à l'université Grenoble-Alpes, spécialisé dans les comics qui s'intéresse également à la culture populaire et à l'imaginaire dans son ensemble. Et Batman.
Tout à fait.
Nous avons également Christophe Thirodem qui est ici. Christophe Thirodem qui aime le sud des États-Unis. Ancien membre de Forge Songe, candidat régulier de l'ancien concours des démiurges en herbe. Soulignons-le en herbe, parce que si c'était un vrai démiurge, je dirais vous en fait. Et également en financement participatif en ce moment, tu as écrit Mississippi Tales of the Spooky South chez les Douze Singes. Et donc là, on a Mississippi Blues, Vaudou et Prohibition qui est la deuxième version, excuse-moi, qui arrive. Nous avons ici monsieur Guillaume Herlin qui est président de l'association Rollist TV, qui est également éditeur avec la société Entremonde, notamment Night. Et qui également revient des Amériques où tu as vu beaucoup d'Américains et aussi tu t'es promené en Nouvelle-Angleterre avec Fabien Fernandez. Vous avez tous pu voir les affiches sur donc, les racines de l'horreur. Et votre serviteur Mathieu Tortuyot, je suis chroniqueur pour Rollist TV, professeur d'anglais. Et puis ça fait trop longtemps que je suis dans le fantastique, le comics et toutes ces choses-là. Mais bon, comme
c'est
ça on reste
grave,
jeune.
Ça.
Ouais, c'est pas grave.
C'est, pas grave.
C'est une maladie qui se soigne pas et tant mieux. Ah, Monsieur Fernandez qui aime soigner ses entrées. Oui, en revanche, Monsieur Fernandez, grab a chair. Alors, le jeu de rôle, donc ce vénérable passe-temps qui a fait s'évader des millions de joueurs depuis 4 décennies, eh bien, voit de nouveau le vent souffler dans ses voiles. La popularité est de retour, notre présence aux Imaginales en est la preuve. Alors que même une enseigne de bricolage, en ce moment, vous pouvez entendre les publicités, vante le jeu de rôle pour un prétexte pour acheter des tables. Eh bien, nous sommes tous réunis pour faire un petit état des lieux, un instantané en 2019 sur le jeu de rôle, à savoir où, le jeu de rôle quand, et le jeu de rôle est-ce une succursale du roman. Donc nous allons donc aborder ces trois thèmes, donc le où, c'est savoir où est la place du jeu de rôle, où se trouve-t-il, comment y a-t-on accès. Quand, à partir de quel âge, est-ce qu'il y a toutes sortes d'âges. Et puis, dans ce qui va être la succursale du roman, nous allons surtout parler de des chemins de narration qu'il peut y avoir entre jeu de rôle et roman, ce qui peut se transposer, ce qui ne se transpose pas, comment est-ce qu'on écrit du jeu de rôle, comment est-ce qu'on écrit du roman, est-ce que transposer une intrigue qui soit character-driven stories ou plot-driven stories, c'est la même chose. Voilà, on va laisser nos invités joyeusement discuter par cela, discuter de cela. On va commencer tout d'abord par le jeu de rôle, ce fameux où. Voilà. Alors, On a remarqué, en fait, en France, maintenant, le jeu de rôle se retrouve de plus en plus accessible. Et la question qui est à se poser, c'est finalement à quel point on peut rendre le jeu accessible. Est-ce qu'on peut imaginer un retour en librairie comme on avait dans les années 80, fin des années 80, avec des grands éditeurs comme Gallimard, ou des retours en supermarché comme on a pu avoir avec l'édition de Star Wars dans les années 88 avec Jeux des cartes. Est-ce que on a un accès facile au jeu de rôle? Est-ce que Internet a sauvé le jeu de rôle mais l'a cantonné dans un endroit? Ou est-ce que, finalement, le jeu de rôle, on peut peut-être en trouver bien plus souvent et bien plus régulièrement que ce qu'on pense, en fait? Qui ouvre le bal, messieurs? Anders? Yes, you're the first one. So, in Sweden, where can we buy role-playing games?
You can buy them in very few specialized stores because the customer base is very digital. So it's... to have this old, almost magic shop-like gaming store of the 80s, it's not possible anymore because it's too expensive. All kind of hobby stores are drifting into the suburbs where they can have a large warehouse and a showroom because most of the customers buy from the internet. It's actually one thing that's disappeared from the cityscape. Even the toy stores are disappearing.
Yes, definitely.
Donc, la question était, où est-ce qu'on achète des jeux de rôle en Suède? Et en fait, il y a très peu de magasins spécialisés de nos jours parce que la base client est en fait achète sur Internet, c'est numérique. Et ces grandes boutiques qu'on avait dans les années 80, 90, à l'ancienne, c'est plus possible parce que ça coûte trop cher. Donc maintenant, les vendeurs de jeux de rôle vont plutôt en banlieue où ils ont justement des grands hangars avec des showrooms, ils ont plein de choses. Ça disparaît du paysage urbain, et puis comme tellement d'autres choses, comme par exemple les magasins de jouets qui disparaissent du paysage urbain.
C'est vrai qu'en France, on a une évolution du marché du jeu de rôle qui est toujours un petit peu un marché de niche avec les boutiques spécialisées, donc soit physiques, mais elles sont malheureusement un peu disparates. On a quelques très bonnes boutiques, souvent connues du milieu. On ne le trouve pas dans toutes les boutiques spécialisées, mais ça a tendance quand même à évoluer. Il y a les boutiques aussi Internet qui marchent très très bien. Mais on a une tendance quand même à désacraliser le jeu de rôle, et on le voit d'ailleurs avec les éditeurs littéraires, puisque quelques éditeurs littéraires sont installés, notamment sur les kits d'initiation. Alors comme il faut toujours en citer trois, je citerai Larousse, 404 édition et Solar édition, et on les trouve dans les FNAC, toutes les grandes prestations comme ça, donc on peut les retrouver maintenant dans beaucoup de boutiques, mais c'est souvent le prime accès.
Effectivement, on peut rebondir là-dessus, c'est que dans les années 80, il y avait ces boutiques de jeux de rôle qui étaient exclusivement consacrées aux jeux de rôle, et c'était aussi des boutiques qui avaient de la VO. Alors que maintenant, en fait, la VO est vraiment concentrée dans certaines boutiques parisiennes ou des grosses, grosses boutiques, je pense à Philibert. Mais maintenant, alors que ça qui est paradoxal, c'est qu'on est dans une époque où on avait peu accès à l'anglais parce qu'il n'y avait pas Internet, qu'on trouvait beaucoup de livres de jeux de rôle en VO, et maintenant, en fait, on a tous ces accès-là, et on n'en trouve quasiment plus. Il faut vraiment aller, là, pour le coup, au niveau de la VPC ou avoir sa petite boutique à côté, et c'est pas donné. On parlait tout à l'heure des boîtes d'initiation, et est-ce que, justement, c'est pas une manière de rattraper tout ce temps perdu, même si on doit repartir vers l'initiation, alors que c'est quand même un hobby qui a 40 ans? Qu'est-ce que tu en penses?
Pour faire de la transition entre cette question et la question précédente, le constat sur la vente du jeu de rôle en boutique, quand j'étais aux États-Unis, donc Mississippi, Louisiane, j'en ai fait pour faire un petit audit sur la distribution en boutique de tout ce qui était jeu de rôle. Donc ça se vendait en boutique spécialisée et aussi, à ma grande surprise, en Barnes & Nobles, l'équivalent de la FNAC de là-bas. Ce qui m'a énormément surpris, par contre, c'est sur les 15 boutiques qu'on a auditées, donc les 15 avaient du Pathfinder, évidemment. Seulement 14 avaient du Donjons & Dragons 5, ce qui était déjà surprenant. Et tout ce qui était les gammes style Toulouse, Star Wars ou Shadowrun, y avait seulement une ou deux boutiques qui en avaient. Et autrement, il y avait peut-être 2-3 points de vente qui proposaient du My Little Pony. Ou le jeu de l'auteur local qui était déposé là. Mais en fait, l'offre en magasin était super faible. Et les seuls qu'on trouvait, à peu de choses près, c'était ceux qui étaient proposés avec du kit d'intro, qui, notamment chez Barnes & Nobles, se vendaient comme de la singulier jeu de société.
À Barnes & Nobles, on a des comics sur trade paperbacks, et puis on a...
Barnes & Noble, qui est la FNAC, qui est aussi mal financièrement que la FNAC aux États-Unis d'ailleurs, on trouve des comics en trade paperbacks, et puis on a effectivement le petit rayon jeu de rôle. Et dans tes magasins que tu as vus aux États-Unis, je suppose que c'est également couplé avec des magasins de comics.
Oui, bah, comics, Magic.
Voilà, parce que la distribution de comics aux États-Unis se fait par le catalogue, enfin, c'est Diamond Distribution. En fait, les magasins de comics peuvent prétendre, peuvent commander du jeu de rôle. Ce qui fait qu'effectivement, la boutique du hobbyiste, comme on dit aux États-Unis, c'est une espèce qui est plus qu'en voie de disparition. Ça, c'est. On a, pour ma part, je rebondis dessus, je suis allé dans l'Oregon cet été, je suis allé dans la boutique qui a inspiré le magasin de comics des Simpsons, avec le Comic Book Guy. Et c'est ça, alors effectivement, c'est un espèce de truc antique, avec des suppléments qui datent des années 90 dans un coin qui prennent la poussière. Et côté jeu de rôle, c'est ce que tu disais, on a les grandes licences et c'est tout. Toi, Fabien, quel est ton point de vue là-dessus ?
Sur le où ? Alors, on reste un peu sur le où ? Sur le où, bah, avec Guillaume, donc nous on revient de Nouvelle-Angleterre, c'est un peu le marché américain aussi, on va pas faire le tour du monde en parlant que des États-Unis, mais j'ai noté qu'à Providence, on avait une boutique un peu plus achalandée que les grosses licences. En dehors de ça, on en trouve aussi dans les aéroports. Je me souviens l'année dernière être passé à l'aéroport de Miami, avoir trouvé du Donjon et Dragon dans une espèce d'équivalent de Relais H. Donc ça dépend tout simplement, je pense, de l'éditeur, du distributeur. Là, quand on parle de Donjon et Dragon, c'est quand même le jeu de rôle, c'est quand même le gros éditeur qui est derrière, donc la grosse machine. Et je pense que pour eux, quelque part, vendre ça à côté de paquet de chips, c'est la même chose. Quoi. S'ils distribuent et peu importe.
Oui, ils ont annoncé la semaine dernière la sortie d'un nouveau kit d'initiation qui sera distribué dans les supermarchés Target, qui sont l'équivalent de Carrefour aux États-Unis. Et là aussi, c'est vraiment un pas de plus.
Mais pour revenir en France, en dehors des boutiques, là, en arrivant, je discutais avec une collègue autrice qui est en train de faire de la construction d'univers avec des enfants dans les bibliothèques, en l'occurrence pour la BNF. Donc on voit aussi que le jeu de rôle reprend un peu de place dans les médiathèques, et il existe aussi des ludothèques. Donc petit à petit, on reprend un peu de terrain. Je pense qu'il ne faut pas compter à revenir comme à l'âge d'or. Et c'est pas la question, quelque part, on s'en fiche presque. L'idée, c'est de continuer à faire du jeu et de le partager. Et maintenant qu'en plus, il a un format très différent, des vieux bouquins limite proches des photocopies, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on aborde le jeu de rôle autrement, on le joue différemment. Et du coup, il s'installe un peu à droite, à gauche.
Parce qu'on était à une époque, à l'âge d'or dont tu parlais, on en parlera tout à l'heure sur le camp, d'ailleurs on va en parler, c'est qu'effectivement, les choix d'évasion dans l'ivertissement et l'imaginaire, dans les années 80-90, il n'y avait pas Internet, les jeux sur PC, Pac-Man était pas mal, et puis on avait les cassettes vidéo si on voulait voir ça, mais effectivement il y avait très très peu quand même d'accès à l'imaginaire.
Est-ce que tu me permets de prendre la
balle? Mais bien entendu.
Parce que du coup là on va rentrer typiquement sur mon terrain, j'aime à dire que je suis imaginariste, ce terme qui n'existe pas vraiment me plaît pourtant beaucoup, parce qu'effectivement moi je regarde un petit peu la culture du côté... Du côté, ce qui fonde un peu nos motivations et ce qui nous pousse en avant, ce qui nous rassemble. Et je pense que le JDR aujourd'hui, c'est quelque chose de beaucoup plus ennemi qu'il y a justement plusieurs décennies en arrière. Et pour moi, c'est un phénomène de l'imaginaire directement, c'est-à-dire qui a rassemblé des gens, qui a rassemblé des passionnés. Et ce que tu disais là par rapport aux moyens de divertissement, ça me semble capital, parce que non seulement c'était un des quelques moyens de divertissement qui était accessible, mais c'était à une époque maintenant un peu lointaine quand même, mais pas tant que ça, c'était surtout un loisir qui était un peu un péché, un plaisir coupable, un peu parfois mauvaise presse on prêtait mille et une intentions néfastes aux rôlistes. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, vous, comment vous avez vécu, parce que, a priori, vous êtes un peu plus âgé que je ne le suis, donc vous avez...
Ouais, tout de suite, les insultes. Ah,
là. Pardon, un peu plus expérimenté que je ne le suis.
Oui.
Excusez-moi. Donc, j'aimerais connaître, en fait, votre sentiment par rapport à l'évolution du jeu de rôle en tant que divertissement accepté et acceptable.
On va commencer avec Anders.
Avec Anders.
I think this, or I might just roll back a bit.
Nope. Mm-hmm.
And say two things. The first thing is that we are sitting here, people in their 40s, talking about how to get 14-year-olds interested in this. And it might be that we haven't got a clue about what interests a 14-year-old and the way a game today should be presented to someone who is 12. Is perhaps beyond us because we don't work with a Pokemon the role-playing game or something like that. There's been quite a successful thing now in Sweden for a superhero story for seven-year-olds that has turned into a role-playing game. And we have kids in sort of 8 to 10 years old sitting actually reading a book trying to figure out a game. And that is quite a long jump when they also have BioShock and Mass Effect and Halo and all these things on hand because they are so much easier to access. Did you get that first? Ouais. Okay.
Alors juste bon, deux choses. Alors tout d'abord, on est là, on a tous la quarantaine et
non. Pardon.
c'est une moyenne.
Alors c'est encore plus insultant.
My bad.
Et on est en train de parler de comment intéresser des jeunes de 14 ans aux jeux de rôle. Et peut-être qu'on n'a pas la moindre idée, parce que bon, comment on peut savoir ce qui intéresse les ados aujourd'hui? Comment présenter un jeu de rôle à un enfant de 12 ans? Pokémon, on n'y connaît rien. En Suède, il y a une chose assez intéressante qui se passe. Il y a en fait un jeu de rôle de super-héros qui vise plutôt un public de 7 ans. Et ce qu'on voit, c'est extraordinaire. C'est des gamins qui commencent à lire, les livres d'instruction pour comprendre le jeu. Et c'est bien moins facile que d'autres jeux qui existent comme Mass Effect, Halo, entre autres. Et c'est extraordinaire.
Si je peux me permettre de faire le lien avec le reste. Donc moi, je travaille accessoirement sur des escape books, qui c'est un mélange d'escape room et de livres dont vous êtes le héros. Et la cible principale de la collection à laquelle je participe chez Glénat, c'est du 8 ans. Donc ça vous donne un peu le niveau d'accessibilité. Et c'est, à mon avis, aussi un bon tremplin pour s'aventurer dans d'autres jeux plus compliqués. Et sinon, donc, j'ai évidemment, je suis l'auteur du jeu des Starts. Pour vous donner une échelle, à l'heure actuelle, un jeu de rôle en vente correcte, ce serait 600 exemplaires vendus en France. Sur des starts, on a dépassé les 2000, mais parce que c'est aussi présenté en boîte, et c'est ciblé sur justement donc la cible dont on parlait Anders, c'est-à-dire les jeunes ados. C'est 10 univers très différents et marqués de liens et qui peuvent faire. C'est-à-dire par exemple, il y a un univers qui est proche d'Harry Potter. Un autre, ça va être les Trois Mousquetaires, l'autre la Guerre des Étoiles, pour donner trois exemples concrets. Et justement, pour qu'il n'ait pas à assimiler tout un univers d'un seul coup, comme pourrait le demander un jeu de rôle classique. Et là, les lancer sur...
Justement, Fabien, est-ce que tu ne penses pas qu'à un moment, les éditeurs ont oublié ce dont parlait Anders, ce public-là, où on disait, bon, on va aller là où le porte-monnaie est, c'est-à-dire sur ces ados des années 90 qui sont devenus des personnes qui travaillent et qui ont l'argent dessus et qui ont fait Pathfinder. Tu veux faire du jeu de rôle, mon ami? Tiens, un bouquin de 350 pages et un autre bouquin de 350 pages.
Je pense que, comme disait Anders, en fait, on est les éditeurs qui, actuels, majoritairement les petits éditeurs, c'est des gens qui ont grandi avec le jeu de rôle, comme nous. Et on s'est un peu oublié parce qu'on se regardait peut-être un peu le nombril. Et là, il y a d'autres éditeurs plus gros qui se disent que grâce, par exemple, aux Actual Play, donc c'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des parties de jeux de rôle filmées. Ça se démocratise. Et comme tout marché, plus on démocratise, plus on intéresse les grosses boîtes qui se disent qu'il y a un marché à prendre. Et du coup, c'est là que ça devient intéressant pour tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est les joueurs, les éditeurs, les auteurs. Parce qu'on reprend un peu de terrain éditorialement et en jeu.
Terrain perdu ou dans le domaine... pour le domaine du jeu vidéo, qui par moi s'est accaparé beaucoup du vocable du jeu de rôle. Je me rappelle, il y a une quinzaine d'années, je disais à quelqu'un, un jeune, qui aurait pu être un de mes élèves, et je lui dis que je faisais du jeu de rôle, et il m'a dit, ah oui, sur console ou PC. Mmh. Alors, ouais, ouais. Et là, je l'ai regardé, ouais. Un long silence.
Puis, I did it before it was electric.
Yes, exactly.
Et, the acoustic one. Yeah.
Mmh. Et, avant l'électricité. En fait.
Voilà. L'acoustique. Alors justement, ça nous fait passer au camp. Est-ce qu'il y a un âge pour commencer? Et puis il y a une des questions, c'est la question grande classique. La grande question classique qu'on a, c'est par quel jeu commencer? Et j'avais écrit, tu me devances là-dessus. Est-ce qu'on ne pense pas que c'est l'histoire qui doit plus compter que le jeu en lui-même?
Je ne comprends pas trop ta question, mais c'est pas grave.
Alors, je la refais. Ouais, joue à donjon, c'est génial pour commencer. Est-ce que quand on va demander par quel jeu on peut commencer, il va y avoir 20 personnes qui vont donner 20 jeux différents. Est-ce qu'on ne doit pas dire, c'est une question que je pose, plutôt quel genre d'histoire tu veux jouer? Parce qu'on se rappellera à la fin de l'histoire qu'on a jouée, pas qu'il fallait lancer un des 20 qu'on devait faire plus que 15.
Et peut-être par extension, par quel jeu avez-vous commencé?
Alors, ouais, mais alors là, si on commence à parler de notre vie façon Higgins dans Magnum, ça va être long. Je dirais plutôt, c'est avec qui on commence déjà. Parce que le jeu de rôle, c'est un jeu participatif, on joue à plusieurs. Et avec qui on joue définit ce qu'on joue. Là, je parlais des starts avec des univers très forts pour rentrer dans le jeu directement. C'est, l'idée, c'est si on dit on fait du Harry Potter, on a une référence commune.
Tu parles d'une histoire. Tu parles pas d'un jeu, tu parles de l'histoire, en fait. Tu vois ce que je veux dire?
Oh, je te vends du Death Start aussi en même temps, mais, du donjon, en fait, quelle que soit la licence qui est derrière, je suis d'accord qu'il y a l'histoire. Est-ce qu'on fait du médiéval fantastique dans le classique du jeu de rôle, du space opéra sauce Star Wars? L'important, je crois que c'est qu'autour de la table, si on est tous raccord sur un univers partagé, du coup, on y va et puis on se pose peut-être moins de questions que d'avoir en effet ce gros pavé de 500 pages à lire. Après, je sais pas ce qu'en pensent mes collègues.
Moi, je vais plutôt répondre à quel âge commencer, parce qu'il y a beaucoup de réponses possibles. Alors, je vais prendre l'autre casquette que tu n'as pas signalée. Je travaille aussi en pédiatrie. À partir de 3 ans, un enfant fait du mimétisme en imaginant être un docteur, être un vétérinaire, peu importe. Et à partir de 6-8 ans, il est capable de se détacher de son propre rôle pour faire un autre rôle. Donc à partir de 6-8 ans, on est capable de faire du jeu de rôle.
Il y a un marché alors.
Et le marché a déjà été pris par Petit Détective de Monstres. J'espère que je ne l'écorche pas le nom, j'ai l'effet de mémoire. Donc il y a des possibilités très jeunes. Alors effectivement, le marché maintenant actuellement visé pour débuter le jeu de rôle est plutôt la tranche à partir de 10-14 ans. Mais très tôt, on peut commencer à faire du jeu de rôle. Donc,
si je peux me permettre d'ajouter un truc là-dessus, ce qui est intéressant avec la littérature, puisqu'on est aux imaginales aussi, c'est qu'il y a un effet d'achat de jeu de rôle qui se fait aussi par le filtre des parents. Et souvent... En littérature young, adulte, jeunesse, c'est les parents qui payent, donc il y a aussi les parents qui choisissent. Et ça, c'est un filtre important qui doit jouer aussi peut-être sur le jeu.
You know, that's a point there, that toys until a certain age are bought by the parents. When we started with this, we were sort of teens and we brought the stuff we wanted ourselves. And finally today, a lot of these very fine, extremely well-produced products are bought by people in their 40s because they want to have it at home, not necessarily play it. It's the same people who buy the 30th anniversary London Calling Jumbo Edition luxury box. We don't necessarily play it, but it's nice to have because I can afford it.
Alors ça, c'est important en effet, parce que souvent les parents sont ceux qui achètent les jouets. Quand j'ai commencé, moi, on était des ados, on achetait ces jeux de rôle nous-mêmes. Mais ce sont des produits que quelqu'un qui a la quarantaine veut acheter pour avoir à la maison, pas forcément pour y jouer. C'est un peu comme quand on achète l'édition Deluxe pour le 30e anniversaire de London Calling. C'est un peu pareil. Et d'ailleurs,
on remarquera que les éditions Gallimard refont toutes les éditions, les couvertures des livres dont vous êtes le héros. et ont changé les couvertures qui étaient très impressionnantes finalement à l'époque et qui maintenant sont dans un style beaucoup plus enfantin. Et ce qui ramène aussi Supernatural, d'ailleurs dans des formats aussi qui sont plus carrés, beaucoup plus accessibles en fait à une forme de littérature jeunesse dans le facteur de forme, comme on dit.
Et je constate également une chose, c'est que de plus en plus, en tous les cas en France, il y a le jeu de rôle qui s'inscrit dans de l'animation auprès des enfants, auprès des jeunes et du coup auprès des parents, parce que du coup l'une des missions des animateurs qui utilisent le jeu de rôle comme justement comme aspect ludique, comme aspect de développement de l'imaginaire des enfants, ils sont amenés à informer les parents, pour ne pas dire parfois les éduquer, si je puis dire, au jeu de rôle et par extension aux grandes natures parfois, mais ça c'est encore un autre domaine, mais au stade du jeu de rôle en tout cas il y a vraiment un dialogue qui se pose entre les générations, entre les praticiens et entre les ceux qui découvrent, yeah. Je trouve.
We had a friend of mine who actually lives 300 meters from me. It's called Simon Stålenhag, and is an illustrator who draws this amazing 80s fantasy stuff. And they made a role-playing game on that, where you play kids in that landscape. And it had the insane luck to premiere at the same time as the TV show Stranger Things. It was just a coincidence. And it had turned into a tremendous success, because it's easy for me to say to a kid, shall we play Stranger Things in Stockholm? Yeah. Whoa, yes, hell, let's do it.
En fait, j'ai un ami qui habite à 300 mètres de chez moi, il s'appelle... Simon Stålenhag, il est illustrateur et fait du fantasy style années 80. Et il venait de créer un jeu de rôle justement pour les gamins, pour les enfants. Et il a eu un coup de chance extraordinaire parce que c'est sorti en même temps que la série télé Stranger Things. Et ça a eu un succès monstre parce que c'est très facile pour moi d'aller voir des gamins et leur dire « Bon, allez, on joue à Stranger Things » parce qu'ils disent « Ouais !»
Il s'agit du jeu de rôle Tales from the Loop, qui est traduit en français Things from the Flood, d'ailleurs en financement participatif en ce moment, pour les années 90, et donc qui est en français aux éditions Arcane Édition. Et vous pouvez donc, effectivement, ce sont des livres, les livres sont de toute beauté, effectivement, on comprend pourquoi on peut en tirer tout de suite un jeu de rôle, il y a un appel à l'imaginaire extraordinaire hein, quand on les lit.
Non, bah, effectivement, ça répond aussi un petit peu à la question que Fabien avait commencé. Par quoi commencer? Alors, c'est assez multiples possibilités, puisque ça va dépendre avec qui on commence, effectivement. Mais dans le cadre où c'est les parents qui achètent et ou dans le cadre où on ne connaît pas forcément le jeu de rôle et on veut découvrir ce que c'est le jeu de rôle, parler de prendre des univers qui nous parlent. Et effectivement, donc Tales from the Loop avec Stranger Things, mais c'est sûr que quand on va voir les parents et qu'on leur dit ils vont jouer dans Harry Potter, dans Destart, dans Mon Petit Poney, ou bien d'autres jeux. Enfin, moi, je me souviens avoir fait l'initiation.
Mon Petit Poney, c'est sale.
Moi, je me souviens avoir fait de l'initiation en convention. Et bien, on avait adapté du Astérix. C'est très facile à vendre aux parents en disant on va l'installer, il va jouer un Gaulois du village Astérix. Ça parle tout de suite, c'est très pratique.
Et du coup, histoire de pointer le monsieur là qui essaye de se la jouer discret, ton jeu donc se passe dans le Mississippi. C'est un thème quand même. Enfin, tu l'expliqueras mieux que moi. Très précis. Du coup, toi, si tu t'adresses à des joueurs, tu t'adresses à quel joueur avec ton jeu? Puisqu'on parle de qui on cible avec le jeu de rôle et par où on commence. Et je ne veux pas vous piquer votre boulot, les modérateurs. Mais...
Alors moi, clairement, pour la première version, quand j'avais des démonstrations, je visais du 14 ans et plus. Depuis que j'ai fait mes recherches historiques supplémentaires, comme c'est quand même une époque sensible en termes de ségrégation et autres, je le place même à 16 ans et plus pour pouvoir mettre moi le curseur plus haut dans les scénarios. Ça m'est arrivé d'avoir des enfants qui étaient très motivés, qui voulaient à tout prix jouer parce que l'imaginaire leur parlait. Mais là, dans ce cas-là, je ne faisais pas jouer du Mississippi, je faisais jouer du Tom Sawyer RPG. Donc toi, tu vas jouer Tom Sawyer, toi, tu vas jouer Huckleberry Finn, toi, tu vas jouer Becky. On allège le truc, ça leur parle. Enfin, peut-être moins maintenant, le dessin animé est moins populaire, mais à une époque, ça pouvait parler. Et voilà. C'est vrai que sinon, autrement, outre le décalage en termes d'âge au niveau du public cible, ce que disait Guillaume sur le fait que Astérix, ça va parler tout de suite, c'est aussi parce qu'il y a un besoin d'investissement qui est bien moindre pour pouvoir se projeter dans l'univers qu'on va faire jouer. C'est un enfant n'aura pas forcément le temps de faire ce qu'un trentenaire va faire, à se torcher 300 pages d'un background, de voir ce qui est possible ou pas de faire, l'héraldique d'empire fictif, etc., etc.
Peut-être pas sous-estimer l'enfant et le trentenaire, des fois ça s'inverse quand même.
Mais je pense qu'il y a la notion d'accessibilité qui fait qu'on pourra proposer au plus tôt ce genre de loisirs avec ce que vous avez tous expliqué plus tôt, le fait des références qui percutent tout de suite. Donc typiquement, bah voilà, tout le monde connaît un petit peu Harry Potter ou Star Wars ou autre. Tu dis c'est dans le genre d'Harry Potter ou c'est dans le genre de Star Wars. Ça va rendre plus facile le fait de mettre un pied dans le jeu de rôle.
Alors je vais juste piquer votre boulot deux secondes encore. Parce que Fabien commence à piquer votre boulot. Alors c'est bon.
On va y aller, nous.
Parce que personnellement, ça m'est peu arrivé, donc je vais renvoyer vers un camarade, initier quelqu'un au contraire d'âgé, d'un cinquantenaire ou un soixantenaire, ça vous est déjà arrivé?
Oui. I would like to see this panel the other way around, actually. It's somehow telling that the only woman on stage is my beloved interpreter, and we're all born in the, at least, early 80s or something.
Again.
It would be nice to have a panel of girls in their 20s talking about this, actually. It would probably teach me more.
We have...
D'ailleurs, on va juste retourner un peu la situation. La seule femme dans ce panel, c'est moi, l'interprète. Et on est tous nés plus ou moins au début des années 80, sauf une exception. Et ce serait intéressant de voir des jeunes filles de 20 ans qui parlent de jeux de rôle. Ce serait intéressant parce que je pense que ça aurait beaucoup de choses à m'apprendre, dit Anders.
Je peux balancer des noms, j'en ai croisé tout à l'heure.
J'ai pour ma part la chance de jouer avec beaucoup de femmes. Donc qui vont de 18 ans à, après je ne dirai pas le nom par galanterie, et c'est effectivement une approche qui est totalement différente, qui est très très rafraîchissante, parce qu'il y a quand même des approches, il y a des spontanéités, des approches qui sont, voilà, que, alors que quand on joue, on a des réflexes, on sait comment on va jouer, le maître de jeu sait comment on va réagir, et bien, voilà, ce sont des approches qui sont vraiment... comme je disais, très spontané, parce que très souvent, ce sont des personnes à qui on propose, qui ne connaissent pas du tout ces univers-là, et qui, eh bien, vont réagir quasiment comme si elles devaient réagir. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui change par rapport aux vieux routards qui connaissent tout, le monstre, oh, c'est ce monstre-là, rangez vos épées, on va prendre des couteaux, ça va être plus simple. Ouais.
Est-ce que je trouve tout particulièrement captivant, justement, en termes de rapport identitaire et d'incarnation du joueur? C'est que, qu'on soit homme ou femme, dans un certain nombre de jeux de rôle, pas dans tous, on peut s'amuser à incarner l'un ou l'autre des personnages, indépendamment du genre où nous nous situons dans la vraie vie. Et du coup, ça crée du plaisir de jeu et des possibilités de jeu et d'incarnation qui ne sont pas nous, finalement.
J'ai l'impression d'être une page de pub dans Des Starts. justement, il y a un choix qui a été fait là-dessus, qui est de proposer, donc à chaque scénario, il y a cinq personnages, d'avoir deux personnages masculins, deux personnages féminins et un personnage qui n'est pas forcément genré, justement pour ouvrir quel que soit le genre, en fait.
Et d'ailleurs, la nouvelle édition de RunQuest, donc celle qui vient juste de sortir, dans les personnages prétirés, il y a six personnages prétirés, quatre personnages qui sont des femmes, deux personnages qui sont des hommes. Et on a effectivement cette ouverture qui, trop longtemps, n'a pas été faite, que ce soit dans les publics, que ce soit dans le public cible, qui maintenant se fait. Donc on a les enfants qui commencent à venir, et on a aussi beaucoup plus de joueuses, et ça, c'est absolument parfait.
Et pour répondre à la question de tout à l'heure, oui, j'ai initié une personne, disons que j'ai fait dans les démos de Des Starts, j'ai des gamins qui se sont installés à la table, et puis le père qui allait regarder, et les enfants qui l'ont poussé sur une chaise pour qu'ils jouent avec eux. Et c'était vraiment très sympa. Le père était de toute façon beaucoup plus démuni que ses enfants. Il ne savait pas trop comment gérer, mais au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, tout le monde était dans le bain et... Et ça faisait le job, comme on dit.
But, to come back to Succès de Roman, I think in the 70s and 80s we sort of realized that role-playing games could adopt literal universes. The first successful one was Call of Cthulhu, of course, which was a major... The Call of Cthulhu, it's a place, sort of. And Les Appels de Cthulhu. That was a tremendous sort of level up for the hobby then, because they adapted a very complex universe, and the whole logic of the narrative changed. You could die, and it sort of didn't matter anymore. But today we must compete with the computer games narrative, where you don't read any material before. You just open your eyes. You know how every computer game starts. Look left, look right, raise hand, manipulate object, and then you start to learn the universe. Instead of say, here's the pamphlet, 30 pages of how the world works. See you tomorrow. There will be an exam. Mm. That's how we did it in the 80s.
Bon, alors pour revenir aux années 80, en quelque sorte, voilà, quand on a commencé, les premiers jeux de rôle, c'était des univers. Alors il y avait l'appel de Cthulhu.
Vous savez que là, vous risquez le lynchage.
Un truc... si on le dit trois fois de suite, il y a un truc pas bien qui va arriver. Et c'est comme ça que, en fait, ça a commencé à prendre de l'élan en tant qu'activité de loisir. On s'adaptait à un univers, on découvrait une nouvelle logique, etc. Mais on pouvait mourir, mais ce n'était pas grave. Hein. Maintenant, quand on prend les jeux d'ordinateur, il n'y a rien à lire, c'est super facile, il suffit d'ouvrir les yeux. Et puis après, on regarde vers la gauche, on regarde vers la droite, on nous dit de lever la main, le bras, de sauter, etc. Bon, c'est très simple, c'est très facile. Et c'est pas comme en temps, de par le passé, où on nous donnait un livret de 30 pages, on te disait, bon, bah, voilà l'univers, lis ça pour demain, et puis il y aura un contrôle. Hein. Attention.
Alors justement, Anders, merci beaucoup, c'est ce qui va nous permettre de faire la jonction entre la troisième partie, roman, et le roman et le jeu, jeu et roman. Alors, faut savoir, par exemple, que George Martin, un petit auteur qui a écrit un, deux, trois livres qui n'ont pas forcément bien marché, est un rôliste éminent, qu'une de ses très grosses autres séries aux États-Unis qui s'appelle Wild Cards, qui existe depuis plus de 30 ans, qui en est au numéro 30, le 8e vient d'être traduit en français, est une série de super-héros, qui était à la base une campagne de jeu de rôle, du jeu de rôle Super World de Chaosium. Par exemple, James Corey, qui a écrit The Expanse, la série, le roman, puis maintenant la série qui est passée sur Amazon, est un rôliste, et The Expanse a commencé par un jeu de rôle sur ordinateur, un jeu de rôle par forum. Et que dans le jeu de rôle qui va sortir, chez Green Ronin, il faisait partie du comité de surveillance du jeu et il a même créé de la fiction pour le jeu. À côté de ça, on a également White Wolf qui a traduit White Wolf dans Vampire, qui a traduit donc, enfin qui a créé pardon le monde des ténèbres dans les années
80. On donnera un lexique à la fin de tous les mots compliqués qu'on voit, Mathieu.
Ouais, attends. Et I'm just the introduction. A vendu plus de 10 millions de livres. C'est-à-dire jeu de rôle plus roman confondu depuis 1991. Il y a très clairement, en fait, un passage qui se fait entre le roman et le jeu de rôle, et pas forcément comme l'indiquait le libellé, l'intitulé « Est-ce que c'est, le jeu de rôle est une succursale ?» S'il n'y a pas d'alpha et d'oméga, il faut voir ça comme un cercle. Est-ce que vous voyez ça, justement, la création comme un cercle? Est-ce qu'on va du roman au jeu de rôle? On a Fabien qui a écrit des jeux de rôle, parce qu'il n'a pas écrit que des starts, et des romans et des bandes dessinées. Comment est-ce qu'on peut voir, justement, est-ce que la diégèse est la même? Est-ce que les processus narratifs sont les mêmes? Qu'est-ce qu'on peut adapter en jeu? Et qu'est-ce qu'on peut ne pas adapter? Et quand on a une idée, est-ce qu'on fait ça en jeu ou est-ce qu'on fait ça en roman? Alors donc, je vous laisse à tous débattre.
I think today we're more and more talk about the setting or the IP, the intellectual property. The vampire thing springs out of Anne Rice novels, a lot of it, and it has then turned into the underworld movies, it had turned into True Blood. All these people involved in that are role players. Even 50 Shades of Grey can be seen as an offspring of Anne Rice's book mutated through Vampire the Masquerade, going Twilight, and then another Mr. Grey, So it's there's a settings we work with today, I think.
Bon, alors en fait, aujourd'hui c'est une histoire. Bon, on a la question de la propriété intellectuelle, etc. Mais prenons par exemple les vampires. Tout ça, ça découle de Anne Rice. Ça a entraîné d'autres histoires comme la série de romans des Twilight ou la série télé True Blood, ou les romans True Blood d'ailleurs, et même par exemple Fifty Shades of Grey, la saga 50 nuances de gris, oui c'est ça. On peut même rapporter ça à Anne Rice. On est passé de Anne Rice, c'est à Twilight, et ensuite à Monsieur Gray.
Également le film Underworld qui avait été mentionné. Yes. Yeah.
Du coup, sans faire du 50 nuances de gris RPG, parce que ça va devenir un peu bizarre.
GN.
Oui, enfin, tout simple. Chacun, that's bon, the whole chacun point joue of the thing. Sa table, voilà.
Mais c'est ça l'idée.
pour prendre la question de qu'est-ce qu'on fait et qui... je voudrais préciser quand même que Mathieu a balancé quelques noms de stars internationales. Moi, j'ai une liste d'auteurs et d'autrices sur les imaginales que je peux balancer, qui sont rôlistes et qui écrivent. Il y en a dans la salle, il y en a... Enfin, voilà. Si vous voulez des noms, vous venez me voir, ça coûte pas cher, je peux balancer. Il y en a qui ont fait leur coming out rôlistique, d'autres non, mais j'ai une liste. Voilà. Pour savoir ce qu'on écrit, soit en jeu de rôle, soit en roman, en fait, le truc est simple, c'est que le roman, c'est une histoire linéaire. Une fois qu'on l'a écrite, on la passe à un lecteur et il en devient en quelque sorte le propriétaire. Le jeu de rôle, comme disait Anders, on campe un univers, un setting, et à partir de là, on en tire des scénarios et c'est qu'est-ce qui est jouable. Il y a des choses qui fonctionnent évidemment et d'autres non. Si on reprend de vieux, pour faire court, hein, pour que tout le monde puisse parler, si on reprend... des anciens jeux, je pense des fois à Elric de Melnip, non c'était Stormbringer. C'est typiquement pour moi le jeu qu'il ne faut pas faire puisque on a le héros de la saga de Moorcock et puis on le voit passer tout ce qu'il fait, comme les premières versions de Star Wars quelque part. Et nous on est joueurs et on est spectateurs. Pour moi, quand on est joueur en jeu de rôle, on doit être le héros de l'histoire. Et de fait, ça donne déjà des axes assez importants, je pense, à savoir ce qu'on écrit dans un cadre ou dans l'autre.
Mais au niveau de la genèse de l'idée, mettons, alors on va prendre ce que Fabien a écrit, un jeu qui s'appelait le projet Pélican, qui parlait des
Amérindiens dans les années 70.
Voilà, avec le projet Alcatraz et tout ça. Quand tu as eu cette idée, pourquoi tu t'es pas dit, tiens, je vais en écrire un roman? Pourquoi tu t'es dit, je vais en faire un jeu? Quels sont les éléments qui t'ont poussé à aller vers le jeu plutôt que vers le roman, sachant que là je fais ta pub. Fabien a aussi écrit un bouquin qui s'appelle Dust, qui se passe pendant le Dust Bowl aux États-Unis. Donc c'est des domaines qui sont un petit peu tes domaines de prédilection. Mais pourquoi est-ce que là tu as avec une couverture qui fait beaucoup penser à Mage, enfin c'est pas qui fait penser, c'est qui fait penser à Mage, le jeu de rôle. Pourquoi est-ce qu'à un moment tu as ton idée de base, tu te dis je vais vers le jeu ou je vais vers le roman?
Alors déjà il y a un facteur important, c'est que quand j'ai écrit Projet Pélican à une date qu'on ne peut pas nommer, ça, c'est très très longtemps, ça
fait 40 ans aussi, c'est ça.
J'écrivais pas encore de roman de manière très construite. Du coup, c'était plus simple et plus naturel pour moi d'écrire du jeu de rôle. Et on va dire que mon sujet de prédilection, c'est un peu l'humain, du pire au meilleur. Et du coup, dans Projet Pélican, on joue des Amérindiens. On est pourchassé à travers les États-Unis et petit à petit, on se rend compte qu'on n'est plus humain et ça vire un peu à l'horreur. Du coup, c'était pour moi comment se mettre dans la peau de quelqu'un qui devient un monstre. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est intéressant à jouer. Pour Dust Bowl, on est plutôt sur une sorte de quête du héros biaisé. Et de fait, ça me paraissait plus naturel d'avoir quelque chose d'assez linéaire. Et de présenter ça en roman.
Oui, d'où ta narration d'ailleurs au présent que tu utilises, oui. Vraiment et qui met vraiment dedans. Mais ça, c'est intéressant. Dans tes créations également, tu n'as jamais été tenté non plus d'aller dans le roman?
Alors si, j'étais tenté. Après, donc c'est aussi une question d'époque, de niveau, l'époque, de ce qu'on se sent de faire, de ce qu'on a envie de faire. Parce que même au-delà du roman, ça peut s'adapter sur plein de choses, du comics, du livre univers, de société, etc. etc. J'ai été tenté, là je commence à faire mes premières incursions. Il y a quelques années, j'avais mon univers jeu de rôle, mon univers littéraire. Là, je commence à mixer un petit peu les deux parce que d'une part, je m'en sens un peu plus. D'autre part, parce que j'ai trouvé les bons angles d'attaque pour décliner mon setting de l'un à l'autre. Et au final, en fait, c'est pas tant une translation du jeu de rôle vers le roman, c'est juste le setting que à l'époque je me sentais d'adapter en jeu de rôle uniquement. Maintenant, ce setting, il y a des nouvelles branches qui l'attirent vers de nouveaux supports par d'autres biais, et aussi parce que chaque support va mettre en avant, apporter sa pierre à l'édifice du projet global sur le setting, et aussi ma façon dont j'ai envie de le partager. Pour moi, la façon de partager son setting et le support sur lequel il va être adapté à la fin, il y a un lien fort.
I think I'll second what you said. It's a bit like if you have this thing or concept, you can look at it through different mediums. It might be a computer game or a live role-playing game or a novel or a comic book or a TV show, and it's still the same thing, but you use the different strengths of the media to tell sort of different stories of it.
Right. Alors, en fait, c'est un concept qui peut être perçu par plusieurs moyens, en quelque sorte, c'est ça que vous dites. Ce concept, on peut le décliner en jeu d'ordinateur, on peut le décliner en jeu de rôle, on peut le décliner en BD, série télé ou roman. C'est la même chose, c'est le même concept, mais il prend plusieurs formes avec différentes architectures.
Non, mais on voit bien, effectivement, alors pour ma part, je ne suis pas romancier, juste auteur de jeux de rôle et éditeur, mais on voit bien qu'effectivement, la première chose qui prime la plupart du temps, c'est l'histoire. Et comment on a envie de l'amener et comment on a envie de la faire vivre. Et comme disait Fabien, la façon très évolutive de suivre un ou plusieurs héros dans le roman n'est pas du tout la même qu'incarner un ou plusieurs héros autour d'une table. Et c'est vraiment cette histoire qui va nous guider au fur et à mesure. Et c'est d'ailleurs pour ça que, un petit peu comme Christophe, et que de plus en plus on le trouve, c'est qu'il y a beaucoup de cross-média qui se fait, que ça soit en termes de jeu de rôle. Alors, soit du roman qui devient du jeu de rôle qui devient du roman, mais également de l'adaptation en jeu vidéo. Et tout ça, au final, comme avant tout, on est des passionnés d'univers, et généralement, quand on y réfléchit, on a parfois plusieurs brides d'idées et comme Christophe, de temps en temps, on trouve un moyen de réunir notre même univers sous plusieurs médias. Alors 1, 2, 3, 4, voilà. Mais c'est vraiment notre univers qui nous a menés et après, en fonction de l'histoire qu'on a envie de raconter, on voit un peu comment on la fait vivre.
Parce qu'il y a aussi le plaisir de prolonger la fiction. Il y a une série qui s'est terminée la semaine dernière, qui n'a pas provoqué un enthousiasme extraordinaire quant à la manière dont elle s'est terminée, donc Game of Thrones. Oui, ouais, c'est ça. Et en fait, on a pu voir de manière assez fine Green Ronin, qui a laissé l'éditeur du jeu de rôle Game of Thrones, qui a fait des publicités sur des prix réduits des PDF. Et l'argument, c'était, vous n'avez pas aimé la fin, venez faire le jeu de rôle. Donc, c'est-à-dire, on peut se réaccaparer la fiction et la tourner comme on le souhaite. Alors évidemment, c'est ce que tu disais avec les problèmes de... Parce que dans la fiction, si je prends Star Wars, il y a Darth Vader, donc évidemment, ça peut faire bizarre. Mais on a, ou par exemple, je prends les Princes d'Ambre qui ont été adaptés en jeu de rôle, évidemment, quand on est face aux Ambriens, qui sont des piliers de ces univers, on peut se sentir tout petit, mais après, parce que c'est la révérence qu'on a vis-à-vis de l'œuvre, mais il faut savoir que quand on, sans faire du déconstructivisme de bas étage, quand on commence à jouer... Dans un univers de jeux de rôle, Star Wars, Game of Thrones et autres, en fait, l'histoire, on fait de la fanfiction. L'histoire, on la prend et puis on en fait ce qu'on veut. Parce que les droits ont déjà été cédés. Donc, et c'est à lui d'avoir la lettre.
Ouais, puis c'est intéressant aussi de voir sur les réseaux sociaux le nombre de scénaristes en herbe qui se sont révélés au grand public.
C'est extraordinaire.
Pour réécrire. Moi, je suis pas fan de ce qu'a écrit notre pote là, Georges, mais je pense que il y a aussi un mot qui est important dans ce qu'on a sur la table ronde, c'est-à-dire le roman ou le jeu de rôle ou les autres médias. Je pense qu'il y a aussi un truc qui est important, qui est l'œuvre, on va dire, d'origine. Et ensuite, il y a le mot-clé qui est adaptation. Et est-ce qu'on adapte ? Est-ce qu'on prolonge l'univers ? Est-ce qu'on fait du cross-média ? Et ça, c'est super intéressant, justement, quand on est créateur d'univers, de savoir, si vous voulez faire un sondage, vraiment, faites un tour sur les imaginales et demandez aux auteurs et autrices qui a joué, qui a adapté son roman à partir d'une partie de jeu de rôle, ou qui va adapter son roman en jeu de rôle. Vous verrez, il y en a plein. Et c'est des prolongations d'imaginaire, pour reprendre ton terme de tout à l'heure. Je pense qu'on est vraiment dans ce moment-là.
Il y a peut-être aussi une autre notion qui émerge de ça, finalement, c'est celle d'attachement. On s'attache à ces univers, on n'a pas envie de les voir terminés, on veut prolonger la fiction. Et c'est particulièrement présent, je trouve, quand on fait des campagnes de jeux de rôle, des campagnes qui, alors des fois il y en a qui durent des mois, mais des fois c'est des années. Il y a des gens qui incarnent un personnage depuis
des décennies.
Qui incarnent des personnages depuis 15 ans, 20 ans, et ils sont avec nous, on vit à travers eux, et c'est la même chose quand on lit, finalement. On n'est pas inerte devant ces personnages.
Je rebondis sur ce que tu dis, parce qu'effectivement, le jeu de rôle, c'est de l'émotion. Moi, pour ma part, j'ai fini une campagne de 17 ans de vampire. J'avais averti les joueurs, j'avais dit attention,
ça va être long.
Je les ai avertis pas la première année, je les ai avertis en disant là, ce qu'on va jouer, on clôture, parce que rien n'est pire, et tous ceux qui font du jeu de rôle le savent, c'est de ne pas finir une histoire. Et le nombre de fois on peut entendre c'était génial, mais on l'a pas fini. Et voilà, je voulais le finir parce que la vie faisait qu'il allait avoir plein de changements, et quand ça s'est arrêté, moi j'avais plus que les larmes aux yeux. Et j'ai vu le silence autour de la table de mes joueurs, et c'était pareil. Et après, on a dit non, on a plein de poussière dans les yeux. Ouais, voilà. Mais c'était c'était vraiment. Et c'est là où on se dit qu'on a revécu une histoire faite de mots, faite de rien, c'est-à-dire de mots. Une histoire qu'on ne peut pas retransposer, mais on a pris un univers qu'on nous a donné, on l'a fait nôtre. Et puis, on ne pourra jamais le rejouer. Personne d'autre ne pourra le rejouer, mais il est à nous. Et il a créé ce souvenir et ce lien. Et c'est aussi pour ça que le jeu de rôle, je pense, ça crée des formidables souvenirs d'histoire. Mais c'est aussi on va au-delà de l'histoire, on va dans l'amitié qu'on a avec les personnes avec qui on a joué, ce qu'on a vécu ensemble. C'est pour ça que la vague de nostalgie dans le jeu de rôle qui est assez présente, c'est qu'on se rappelle les histoires et les jeux, mais on se rappelle aussi la période pendant laquelle, dans laquelle on jouait, en fait.
There is. I'll say as a backside to this, because we have a lot of TV and movies these days produced that the main purpose is to invite us to hang out with the characters for another 2 hours, which is sort of the flip side of this. Things never end. You just invited to hang out with Iron Man for another 2 hours, and does anyone remember the third Iron Man movie? It's like, what the fuck was that about?
Il y a un autre aspect d'ailleurs, parce que de nos jours, des séries télé, des films sont créés, c'est tout simplement pour nous inviter à passer un peu plus de temps avec tel ou tel personnage. Il n'en finit pas. Prenez pas Iron Man, par exemple, on nous propose toujours de passer encore un peu de temps avec Iron Man, mais qui se rappelle du troisième Iron Man?
Non, mais en fait, je suis d'accord, mais je pense qu'il y a un credo marketing aussi qui va avec, c'est-à-dire qu'on entre là dans un autre marché, parce que bon, Iron Man, maintenant, c'est Disney. L'idée de Disney, c'est de faire entrer les spectateurs dans son univers, depuis toujours, depuis les dessins animés, et après les Disneyland et ce genre de choses. Et là, quand on crée un univers, surtout avec des héros très différents, on essaye d'amener le plus de monde possible, et on essaye de les faire durer le plus longtemps possible. Alors il y a un côté fan, il y a un côté on partage un très bon moment ou pas si on n'aime pas, mais surtout il y a un côté merchandising qui va avec, parce que quand on rentre dans l'univers, et ben après on le retrouve un peu partout et on continue à acheter en permanence ou à consommer d'une façon ou d'une autre du Marvel.
Sur cette question là, promis je fais court, mais là je suis obligé de m'emparer du truc. Je suis en train de lire un essai théorique sur Batman qui vient de sortir. Batman en tant que légende urbaine. Et en fait, il est expliqué dans cet essai que Batman a des centaines d'incarnations différentes depuis 1939, mais peut-être parce que Batman est à chaque fois une représentation différente du monde pour différents lecteurs, différentes époques. Donc, quelque part, les super-héros, ils sont appelés à... Alors, il y a cet aspect marketing, c'est une évidence absolue. Ça, on ne pourra jamais l'enlever. Mais pour l'imaginaire, il y a peut-être aussi cette volonté d'incarnation et cette volonté de perception toujours renouvelée.
Oui, c'est pour s'identifier au personnage, je suis d'accord avec ça. C'est pour ça que maintenant, les super-héros, ils n'ont plus un pantalon avec un slip dessus. Quoi.
Et qu'il n'y a plus de couleur primaire au cinéma, c'est on vrai. Les a retirés. Et comme disait Stan Lee, les comics, c'est l'illusion du changement. Donc, quoi qu'il arrive, il y aura toujours Batman qui Bruce Wayne qui se promènera avec ses parents, puis il fera une mauvaise rencontre. Ça va, donc, nous arrivons à la fin de notre... Le temps passe vite quand on s'amuse, hein, comme on dit. Bien, on a été très contents d'adapter. Si vous avez certaines questions, il n'y a absolument aucun problème, parce que visiblement, personne n'est là pour nous chasser. Donc, barricadons-nous. Oui, tout à fait.
If anyone's interested, I will be down in the big, big, big tent.
Je plaisantais, hein, bien sûr.
Selling books for like 30 minutes. Please come down there and get a nice little Cthulhu cartoon thing in your book.
Si ça intéresse quelqu'un. Je serai en train de vendre des livres dans la grande tente là-bas. Alors, si ça vous intéresse de prendre un de mes livres, je vous ferai un beau dessin.
Alors, on remercie donc le Signe Jaune qui a organisé tout cela. On remercie JDR Édition également. Et je vous signale qu'à partir de 21h, il y a une soirée jeu de rôle. Vous pouvez aller à la tente du Signe Jaune pour vous inscrire. Hein. Il reste encore des places. Vous pouvez même jouer avec Anders en anglais. Donc voilà, c'est deux choses pour le prix de rien du tout d'ailleurs. Et donc encore une fois, voilà. On...
8h30 ou 21h?
8h30.
Ah.
20h30. Pas
21h. Bon, il y a une enchère. Voilà.
23h. Voilà.
Voilà. Donc voilà, on vous remercie pour tout et puis continuons juste, à juste parler de la bonne parole.
Une page de pub pour rebondir ce que disait. Il y a Xavier Mauméjean sur le salon et si vous cherchez un spécialiste Batman.
Ah bah oui, voilà. C'est, oui, on bosse ensemble donc oui.
Merci pour tout.